Whole Lotta Rock, tous les quatrièmes mercredis du mois, de 22h30 à minuit, sur Radio Campus Paris. Épisode 2, 1956-1962, Link Wray, The King et Surf Rock. Link Wray, né en 1929, est le deuxième fils d'un couple de prédicateurs de rue d'origine Shawnee, une tribu indienne d'Oklahoma. Il grandit dans des quartiers défavorisés, où une population majoritairement noire fait régulièrement face aux répressions racistes du Ku Klux Klan. Son père étant revenu de la Première Guerre mondiale traumatisé, le jeune Link Wray a dû travailler dès l'âge de 10 ans pour subvenir aux besoins de la famille. Sa mère, handicapée, faillit mourir lors de l'accouchement, qui eut lieu au forceps, et dont il gardera des séquelles physiques, des cicatrices de chaque côté de la tête, et psychologique, une sorte de complexe d'infériorité. Il accompagnera régulièrement sa mère lors de séances de prédication publique qui lui laisseront un souvenir fort. « Moi et mes deux frères jouions des chansons pendant qu'elle parlait. C'était sidérant, vraiment très puissant. Je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial au fond d'elle. C'était notre Dieu. » À l'âge de 8 ans, il fait la connaissance de Hambone, un orphelin noir vivant dans un cirque établi non loin de sa maison. J'étais assis sous le porche. Mon père avait acheté à mon frère Ray une guitare Maybell, mais Ray préférait sortir et aller faire du vélo, donc je l'ai empruntée. Elle n'était même pas accordée, je ne savais même pas ce que je faisais. Et voilà que débarque ce type qui me dit de le laisser faire. Il l'a prise, l'a accordée, a sorti un bottleneck et commencé à chanter du blues. Je suis tombé amoureux de cette musique. Link multiplie les visites à son nouvel ami et apprend les bases de la guitare, essayant sans relâche de se mesurer à ses idoles. Chet Atkins, Grady Martin, Ray Charles, Tal Farlow, Hank Williams. Mais son jeu reste trop lent à son goût et il commence à s'intéresser au travail du son. Je cherchais quelque chose que Chet Atkins n'avait encore jamais joué, qu'aucun de tous ces rois du jazz n'avait encore jamais joué. J'étais en quête de mon propre son. Un épisode de Rubéole laissera à Link Wray des séquelles auditives, d'où le jeu puissant qu'il développera par la suite. En 1951, il est mobilisé dans l'armée américaine et s'envole pour la Corée et l'Allemagne durant 2 ans. Atteint de la tuberculose, il y laissera un poumon quelques années après. À son retour en 1953, il se concentre davantage sur son jeu de guitare et s'équipe d'une Gibson Les Paul. Épaulé par ses trois frères, il forme alors son premier vrai groupe, Lucky Vray and the Palomino Ranch Hands, lesquels se construiront rapidement une renommée locale qui leur vaudra plusieurs concerts à travers le pays. En 1955, ils partent enregistrer leur première chanson à Washington, dont le rockabilly, I Says Baby, mais Link reste insatisfait de ses performances vocales. Dans le même temps, il se désintéresse progressivement de ses influences premières et commence à se pencher sur l'élaboration d'une musique plus lourde qui lui permettrait de s'exprimer pleinement. De retour à Portsmouth, Link continue les concerts avec son jeune frère Doug. Devant un public composé principalement de marins ivres, il commence à durcir son jeu. J'ai commencé à sortir mon épingle du jeu. Doug jouait plus vite, on reprenait des standards country dans un style plus agressif. J'imagine qu'on aurait pu appeler ça du rock'n'roll, mais on ne le savait seulement pas à l'époque. La tuberculose gagne cependant du terrain, et Link est opéré en urgence. Ce après quoi il restera en observation pendant près d'un an. Durant cette période creuse, Doug est amené à jouer pour Elvis Presley, encore inconnu du public. Link est témoin de ses débuts et se fascine pour cette nouvelle musique, dont le jeune talent deviendra une icône. Le 3 avril 1956, Elvis Presley se produit sur le pont de l'USS Hancock à San Diego pour l'émission The Milton Berle Show. Les marins et leurs petites amies lui réservent un accueil déchaîné. À la fin du mois, Heartbreak Hotel devient son premier numéro 1 dans le hit parade pop. Il se produit pendant 2 semaines au New Frontier Hotel and Casino de Las Vegas, devant un public d'âge mûr qui n'apprécie guère sa musique. C'est à Vegas qu'il découvre Hound Dog, une chanson des fameux compositeurs Jerry Leiber et Mike Stoller, popularisée en 1953 par Big Mama Thornton, qui devient dès lors le morceau de clôture de ses concerts. Il entame ensuite une tournée dans le Midwest qui le voit jouer dans 15 villes différentes en 15 jours. Presley passe pour la deuxième fois au Milton Berle Show le 5 juin. Il laisse sa guitare en coulisses sur les conseils de Berle. Durant son interprétation de Hound Dog, il se livre à des mouvements suggestifs qui donnent lieu à une importante controverse médiatique. Son déhanché lui vaut le surnom de Elvis le Pelvis, qu'il n'apprécie guère. En revanche, lorsqu'il apparaît dans le Steve Allen Show le 1er juillet, c'est pour chanter Hound Dog à un chien de race Basset Hound portant haute forme et cravate, ce qu'il considère par la suite comme la performance la plus ridicule de sa carrière. Pour la première fois, l'émission de Steve Allen réalise de meilleures performances que celle d'Ed Sullivan. Bien que celui-ci ait déclaré Presley inapproprié pour un public familial, il lui verse $50,000 pour 3 apparitions dans son Ed Sullivan Show, du jamais vu à l'époque. La première émission, diffusée le 9 septembre, est vue par environ 60 millions de téléspectateurs, soit 82,6% de part de marché. Par la suite, Love Me Tender enregistrera 1 million de précommandes après son interprétation. Cette émission jouera un rôle déterminant et propulse Presley au rang de superstar national. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely when they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think of something. I'll be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely when they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, but you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. En ce début de 1956, le phénomène Elvis Presley explose avec Heartbreak Hotel, sorti en janvier. Le succès foudroyant de ce disque met en émoi tous les labels. Chacun est en quête de son Elvis Presley. Sheriff Tex Davis, animateur de WCMS, une radio de Norfolk aussi. Il décide alors de miser sur un certain Vincent Eugene Craddock. Craddock est un chanteur de blues connu de sa communauté en Virginie et surnommé le Screaming Kid en raison de son interprétation criarde des standards du blues. Après 3 années de service militaire, il s'acheta une moto Triumph avec laquelle il se fera percuter par une voiture qui brûle un feu rouge, incident duquel il héritera sa démarche chaloupée caractéristique. Pendant son séjour à l'hôpital, il écrira ce qui deviendra son hit mondial, Bebopalula, une chanson inspirée de Little Lulu, une héroïne de bande dessinée. Sheriff Tex Davis devient donc son directeur artistique et l'entoure de 4 musiciens jouant pour WCMS. Le 9 avril, le groupe enregistre dans les studios de WCMS une démo de 3 titres, Bebopalula, Raised with the Devil et I Sure Miss You. Le 4 mai 1956, le groupe arrive au studio d'Owen Bradley à Nashville, où Buddy Holly et Johnny Carroll l'ont déjà enregistré. Ce dernier avait suggéré d'exagérer l'écho. L'ingénieur Mort Thomason avait alors mis au point un nouveau son, lequel est repris pour Gene et ses musiciens, dont il parvient à traduire l'innocence, la spontanéité et le tempérament adolescent et sauvage. Les 3 titres de la démo sont enregistrés, ainsi que Woman Love, une adaptation d'une chanson hillbilly déjà interprétée par Jimmy Johnson. À l'issue de la séance, Vincent Eugene Craddock devient Gene Vincent, et le groupe prend le nom de Gene Vincent and his Blue Caps, en référence aux casquettes bleues de marin que tous les membres arborent. Le single sort le 2 juin avec en face A, Woman Love, et en face B, Bebopalula. 200 000 disques se vendent dans le seul mois de juin. Bebopalula, rockabilly syncopé, devient un tube légendaire. Il sera repris par de nombreux artistes. Baby, I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby. Well, she's the gal in the red, blue
queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she's my baby, da, my baby, da, my baby, da. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't want my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
À la fin de l'année 1956, Presley fait la une du Wall Street Journal, qui rapporte que la vente de produits dérivés du chanteur a rapporté 22 millions de dollars. RCA a beau être l'une des plus grandes maisons de disques américaines, il représente plus de la moitié de leurs ventes de 45 tours sur l'année 1956. Presley participe pour la troisième et dernière fois au Ed Sullivan Show le 6 janvier 1957. À cette occasion, les caméras ne cadrent que le haut de son corps. D'après certains auteurs, cette quasi-censure serait une idée du colonel Parker afin de faire parler de son poulain. Le chanteur conclut sa performance en interprétant le gospel « Peace in the Valley ». Au mois de mars, le chanteur achète pour ses parents et lui un manoir situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Memphis, le fameux Graceland. Les trois singles de Presley sortis dans la première moitié de l'année 57 se classent en tête du hit parade. Too Much en février, All Shook Up en avril et Let Me Be You Teddy Bear en juillet. Le public est toujours aussi déchaîné lors des trois tournées données par Presley au cours de l'année. Les étudiants le bombardent d'œufs à Philadelphie tandis qu'à Vancouver, le public détruit la scène après la fin du concert. Sorti au mois d'octobre, Elvis Christmas Album se classe à son tour en tête des ventes. Il inclut notamment Santa Claus is Back in Town, un blues aux paroles ambiguës écrit par Leiber et Stoller. C'est l'album de Noël le plus vendu de tous les temps aux États-Unis.
Paralyzed. When we kissed,
Elvis est finalement appelé sous les drapeaux le 20 décembre 1957 et est conscrit à Fort Chaffee dans l'Arkansas. Les médias suivent de près l'événement au point où des photographes l'accompagnent dans les bâtiments de l'armée. Presley déclare quant à lui ne pas vouloir de traitement de faveur. Il est même considéré par ses camarades comme un soldat comme les autres qui ne se vante pas de sa célébrité et fait preuve d'une grande générosité. Il reverse sa solde à des organisations caritatives et achète des postes de télévision et des tris de rechange pour ses pairs. Le chanteur s'inquiète des conséquences du service militaire sur sa carrière, mais ses producteurs s'arrangent pour continuer à fournir régulièrement au public de nouveaux disques d'Elvis, en puisant dans ses enregistrements inédits. C'est ainsi qu'il place 10 chansons dans le top 40 durant ses 2 années à l'armée, parmi lesquelles « Wear My Ring Around Your Neck », « Hard-Headed Woman » et « One Night » en 1958. Puis « Now and Then There is a Fool Such as I » et le numéro 1 « A Big Hunk of Love » en 1959. RCA édite également 4 33 tours durant cette période, dont la compilation Elvis Goldstein Records, numéro 3 des ventes en 1958. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch.
Un autre groupe bénéficia du génie d'écriture du duo de compositeurs Jerry Leiber et Mike Stoller, les Coasters. Originaire de Los Angeles, les Coasters est un groupe de rhythm and blues formé sur les cendres des Robins et dont Leiber et Stoller, également fondateurs de Spark Records, produiront leur tube Smokey Joe's Coffee en 1955. L'association des Coasters avec Leiber et Stoller fut un succès immédiat. Ensemble, ils ont créé une série de succès musicaux, des hits renfermant des paroles aux histoires amusantes qui leur valurent le surnom de Clown Princes of Rock'n'Roll, les clowns princes du rock'n'roll. Leur premier single, Down in Mexico, fut un succès rhythm and blues en 1956, et l'année suivante, ils se retrouvent de nouveau dans les charts pop avec le double face Young Blood et Searching. Searching a été le premier succès du groupe dans le top 10 américain et était en tête du classement R&B pendant 13 semaines, devenant le plus grand single R&B de 1957. Yak et Yak, avec King Curtis au saxophone ténor, comprenait la célèbre formation Gardner, Guy, Jones, Gunter et est devenu le seul single numéro 1 national de la formation en tête des charts pop et de R&B. Le single suivant, Charlie Brown, atteint la deuxième place des deux charts. Il est suivi par Along Came Jones, Poison Ivy, numéro 1 pendant près de 2 mois dans les charts R&B, et Little Egypt Yin Yang. En 1961, il se sépare de Leiber et Stoller et travaille avec d'autres artistes, comme Booker T. Jones, mais sans retrouver les premières places des Hit Parade. La fin des Coasters est tragique. Earl Carroll prend la place de Gunther, qui fonde ses propres Coasters. Le saxophoniste King Curtis est poignardé en 1971. En 1980, on retrouve le cadavre mutilé d'un des nouveaux Coasters, Nathaniel Wilson. Bob Inman meurt en 1986 et Cornel Gunther est tué par balle en 1990. Seul reste Carl Gardner, indéboulonnable. Pendant ce temps-là, Lingray rencontre ses premiers succès à la fin des années 50 avec son groupe renommé Lingray and the Raymen, composé de ses deux frères et lui-même. C'est lui qui est à l'origine de l'utilisation dans le rock des power chords, ces accords harmoniquement pauvres, mais très uniformes et très efficaces sous l'effet d'une distorsion. Il se démarque à l'époque par un son blues rock violent et amplifié, rendu rugueux par une distorsion outrancière pour l'époque, surtout avec l'usage de l'effet Larsen qu'il est le premier à domestiquer volontairement. Le fameux Larsen est né un jour de janvier 58, alors qu'on demandait aux Raymen de jouer The Troll, une danse de l'époque en file indienne et au rythme lent. Sorti de l'hôpital quelques mois plus tôt, et avec un poumon en moins, Link ne connaît pas ce titre et ne peut chanter. Il improvise alors un riff calé sur un rythme de son frère Doug. Dans la confusion, Ray plaque un des micros contre l'amplificateur de Link. La puissance délivrée étant trop importante pour le matériel de l'époque, le groupe obtient un son extrêmement saturé. Le Larsen était né et le morceau sans parole interprété fut un succès auprès du jeune public. Link affirmera alors que ce morceau est issu d'une rencontre avec Dieu lors de son séjour à l'hôpital. Cherchant plus tard à reproduire le même son saturé en studio, Vray dut percer les haut-parleurs de son ampli pour y parvenir. Quelques temps plus tard, Cadence, une petite maison de disques située à Washington DC, accepta d'enregistrer ce morceau instrumental au succès populaire, bien que le patron du label, Archie Blayer, s'y opposa tout d'abord. Puis en voyant l'enthousiasme de sa fille à son écoute, qui trouvait que ce morceau lui rappelait les scènes de bagarre dans West Side Story, il se résigna et l'enregistra. Cet enregistrement devint alors un hit controversé aux États-Unis, puisque certaines stations de radio interdirent sa diffusion, en raison du titre adopté, Rumble, terme issu de l'argot américain signifiant « bagarre de rue », et de son son rugueux considéré alors comme une incitation à la violence juvénile. Un exploit alors pour un morceau instrumental. Richard Mansour, alias Dick Dale, apprend très jeune la batterie, le ukulélé et la guitare. Passionné de musique mais également de sport, c'est en faisant du surf que lui vient l'idée de créer un son de guitare qui évoque les sensations propres à cette discipline. Il joint aux techniques du trémolo, du staccato et du bourdon, une utilisation systématique de la réverbération poussée à l'extrême, procédé devenu caractéristique du son surf. Aux États-Unis, le mouvement surf prend forme à la fin des années 50 dans un contexte de contestation et de refus de l'ordre établi. Les manifestations contre la guerre du Vietnam et les émeutes des Noirs dans les grandes villes américaines fédérèrent en effet une partie de la jeunesse. Mais cette génération, née juste après la Seconde Guerre mondiale, rejetait aussi l'American Way of Life et son conformisme, la soumission au pouvoir et au canon de l'art. Elle cherchait à fuir la société de consommation en mettant en avant des valeurs écologistes et égalitaires, inspirées des philosophies orientales.
Thank you.
En Californie, dès 1958, les concerts de Dick Dale and the Deltons créent l'événement. On accourt des quatre coins de la région pour voir ce guitariste singulier, à la fois rocker et surfeur. Son sixième 45 tours, Let's Go Trippin', paru en 1961, sera considéré comme le premier titre surf, devançant le Surfing des Beach Boys. Il sera suivi de titres à la distribution plus locale tels que Jungle Fever, Shake and Stomp ou Surf Beat. Après avoir enregistré pour le label de son père Delton, plusieurs 45 tours et un premier 33 tours intitulé Surfer's Choice, Dick Dale signe un contrat avec Capitol Records. La firme réédite le premier album en 1962, le distribuant ainsi à une plus grande échelle, et lui permet d'en enregistrer 4 autres, accompagnés par des musiciens hors pair. Dick Dale apparaît alors dans le Ed Sullivan Show et dans quelques films. Son surnom, King of the Surf Guitar, sera bientôt éponyme de son deuxième disque. Associé à la firme de Leo Fender pour la recherche et la mise au point d'un amplificateur à lampe Dual Showman surpuissant pour l'époque, mais aussi pour la fameuse boîte de réverbération à ressort, Dick Dale en tirera un jeu de guitare caractérisé par sa sonorité et sa puissance, avec une inspiration directement issue des sensations qu'il éprouve lors de ses parties de surf, notamment en traversant les fameux tubes formés par les lames de fond se retournant, qu'il aime affronter sur l'océan. Guitariste gaucher, il utilise néanmoins, à l'instar du bluesman Albert King, une guitare pour droitier, en conservant l'accordage original, les modèles pour gaucher étant trop onéreux. Il joue donc avec les cordes à l'envers, le mi grave étant placé en bas et le mi aigu en haut. Bien qu'il ait adopté par la suite des modèles pour gaucher, Dick Dale a conservé cette disposition inversée, ce qui permet selon lui une attaque des cordes graves encore plus puissantes. Non content d'avoir la primeur des innovations de la marque Fender, il fait aussi usiner ses propres cordes, ne trouvant pas dans le commerce de tirants assez forts à sa convenance. On dit d'ailleurs de lui qu'il fait fondre ses médiators, qu'il distribue lors de ses concerts aux spectateurs du premier rang après les avoir usés sévèrement en 3 ou 4 titres seulement. We'll be right back.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
The Beach Boys se forment en 1961 à Hawthorne, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Le groupe réunit les trois frères Wilson, Brian, Carl et Dennis, ainsi que leur cousin Mike Love et un ami de Ryan, Al Jardine. Le père des frères Wilson, Murray, s'investit dans le groupe en tant que manager. S'inspirant du surf que pratique assidûment Dennis et profitant de la vague de la surf music en train de devenir un phénomène musical, Brian Wilson et Mike Love écrivent le premier titre du groupe, Surfin'. Le style s'inspire du rock'n'roll et du doo-wop, et la musique est encore très simple. Surfin' sort en 45 tours en décembre 1961, et la chanson connaît un succès rapide à Los Angeles où il se classe deuxième, permettant au titre d'atteindre la 75e place au niveau national. Dès lors, le groupe est repéré par Capitol Records, chez qui il signe. Leur premier album sort en 62 sous le titre Surfin' Safari. On y retrouve Surfin' ainsi que leur second single, éponyme de l'album. Le 45 tours se classe 14e au niveau national, tandis que l'album connaît un succès moins franc. Les premiers albums du groupe reprennent inlassablement les mêmes thèmes récurrents. Le surf est le thème central, repris dans le titre des albums et de 4 singles sur 5. Les albums comprennent d'autres chansons sur ce thème. Hawaii, Surfer Moon, Catch a Wave, Noble Surfer, Surf Jam. La surf musique est alors à son apogée. Les Beach Boys reprennent d'ailleurs plusieurs titres de Dick Dale and His Deltons. Brian Wilson, le leader du groupe, crée ainsi l'image nouvelle de la Californie. Au milieu du XXe siècle, le grand état de l'Ouest américain est encore l'Eldorado dans l'imaginaire populaire, celui de la ruée vers l'or du siècle précédent. La Californie que nous connaissons, plus ou moins fantasmée, avec ses palmiers, ses surfeurs, sa jeunesse dorée, nous vient tout droit des Beach Boys. Pour reprendre le titre d'un ouvrage de David Leaf, ce sont eux qui ont créé le mythe californien. Tous les thèmes de ce mythe apparaissent dans leur musique dès 1961. Cette image leur collera tellement à la peau qu'à la fin des années 60, elle les rendra ringards aux yeux d'une jeunesse préoccupée par la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Au début des années 60, Johnny Cash commence à consommer de grandes quantités d'alcool et de drogue, notamment pour tenir lors des longues et difficiles tournées, comptant pas moins de 300 spectacles par an, souvent dans des lieux très éloignés qu'il faut rejoindre en voiture. Il devient rapidement dépendant des amphétamines et des barbituriques, qui affectent grandement son comportement. Pendant quelques temps, il partage un appartement à Nashville avec le chanteur country Waylon Jennings, lui aussi dépendant des amphétamines. Cash affirmera plus tard avoir essayé toutes les drogues qu'on pouvait essayer. Bien que perdant peu à peu tout contrôle sur sa vie, Cash reste très productif et les succès continuent. En 1963 sort le titre Ring of Fire, chanson écrite par June Carter et Merle Kilgore et décrivant le cercle de feu entourant le chanteur, référence à sa dépendance à l'alcool et à la drogue. Avec son arrangement original de cuivre dans le style des mariachi, une idée de Cash, la chanson atteint la première place des charts country et entre au top 20 des ventes de disques pop.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
En 1965, il est arrêté à El Paso, au Texas, par la brigade des stupéfiants, qui le soupçonne de transporter de l'héroïne depuis le Mexique. Il est rapidement relâché, car on ne trouve caché dans son étui de guitare que des amphétamines et barbituriques légaux pour lesquels il dispose d'une ordonnance. Il est néanmoins condamné à une peine avec sursis. Il est à nouveau arrêté le 11 mai 1965 à Starkville, Mississippi, pour s'être introduit en pleine nuit dans un jardin privé dans le but d'y cueillir des fleurs. Ce sera la source de sa chanson « Starkville City Jail ». Malgré ces incidents, Cash ne passera jamais plus d'une nuit en prison, ce qui ne l'empêchera pas de cultiver une image romantique de détenu endurci, de nombreux fans croyant réellement qu'il a passé des années au pénitencier de Folsom. En 1968, Cash parviendra à se sevrer de la drogue. Il affirmera dans son autobiographie avoir eu une révélation surnaturelle après une tentative de suicide sous l'influence de la drogue. Il serait descendu dans une caverne pour y mourir, mais le souffle de Dieu l'aurait poussé à en sortir et à recommencer sa vie. Il vit cet épisode, réel ou fantasmé, comme une véritable seconde naissance. Plus prosaïquement, il reçoit l'aide de June Carter et de sa famille, qui s'isole chez lui pendant un mois pour s'occuper de sa désintoxication. Cash redécouvre sa foi religieuse, célébrant l'événement par une cérémonie dirigée par le pasteur Jimmy Roger Snow, fils du musicien country Hank Snow. Il demandera la main de June Carter, qui a promis de l'épouser quand il serait clean, sur scène au cours d'un concert au London Gardens à London au Canada le 22 février
1968. tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always.
Thank you. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch.
Poison.
She'll really do you in if you let her get under your skin.
Poison ivy, poison ivy.
Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around.
Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. Common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya.
The poison ivy, Lord, will make you itch.
You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound
the minute you start to mess around.
Poison ivy.
Around.
Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool you, and whooping cough can cool you.
The poison ivy, Lord, will make you itch.
You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound
to mess around.
Poison ivy, poison ivy.
Late at night while you're sleeping, poison ivy comes to creeping around.
Everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a
C'est faible.
Thank you.
Teacher, we're serving USA.